Les enjeux internationaux, Thierry Garcin.
Bonjour Thierry Garcin.
Bonjour, pardon Émilie Chaudet.
Il est question de la Syrie aujourd'hui, le rôle militaire et politique de l'Iran dans la guerre civile.
Voilà, dans la guerre civile, c'est un aspect qui n'est pas souvent traité. Alors bonjour Frédéric Pichon.
Bonjour.
Vous êtes enseignant et chercheur en géopolitique. Vous venez de faire paraître aux éditions du CERF un ouvrage intitulé « Syrie, une guerre pour rien ». Alors l'Iran justement, l'Iran émerge depuis quelques années comme la puissance régionale en devenir. Cela n'est pas dû seulement à l'abandon du programme nucléaire donc au mois de juillet 2015. Très tôt, le pays a constitué un acteur de premier plan dans la guerre civile syrienne, laquelle avait éclaté en 2011. Cette guerre civile syrienne avait été prédite par les experts, il faut bien le dire. On l'avait annoncé immanquablement régionalisée. On n'avait pas imaginé autant internationalisé, la Russie ayant profité des hésitations et des atermoiements américains. Alors, pourquoi l'Iran dans cette guerre civile, Frédéric Pichon?
Alors, en fait, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. C'est une relation qui remonte aux années 80, qui a été une manière peut-être déjà pour Hafez al-Assad de compenser en quelque sorte ces autres alliances régionales. Il y avait d'assez bonnes relations, et y compris sous Bachar al-Assad, avec les puissances sunnites du Golfe, Arabie Saoudite et Qatar. Il y a pour l'Iran aussi ce prolongement méditerranéen, cette capacité à travers le territoire syrien de pouvoir, jusqu'au Liban, avoir un pion à jouer contre Israël sur le littoral méditerranéen. Et puis alors, les Américains en 2003 ont servi l'Irak sur un plateau d'argent à la puissance iranienne, ce qui fait que l'Iran actuellement peut se targuer de contrôler quatre capitales arabes, Beyrouth, Damas, Bagdad et pas encore tout à fait le Bahreïn, mais voilà.
Il faut d'ailleurs rappeler toujours le rôle des Américains en 2003 et la calamité qu'a représenté cette guerre et qui a permis aux Américains de laisser le pouvoir presque exclusivement aux chiites. On va dire les deux tiers des Irakiens sont chiites, hein, on dit généralement 65%.
Oui, c'est ça. Et effectivement, il y a un renversement. Depuis les années 20, c'était les sunnites qui dominaient en Irak, en faisant, il faut bien le dire aussi, des chiites irakiens des citoyens de seconde zone, c'est-à-dire qui étaient presque soumis au statut qu'ils avaient à l'époque ottomane. Quasiment pas de passeport, pas de droit politique, et puis l'histoire est coutumière de ce renversement de situation, et effectivement le retour de bâton a été tout à fait déséquilibré, hein, et les Américains ont semblé ne pas réaliser ce qu'ils faisaient effectivement.
Oui, puis il faut rappeler, même si on parle de la Syrie et non pas de l'Irak, la façon dont les Américains ont aboli d'un trait de plume les services d'enseignement, l'armée, le parti Baas, qui est un parti unique, etc., et laissé presque le chaos s'installer en quelques semaines, avec une terrible guerre civile en Irak.
Oui, le fameux ordre numéro 2 de Paul Bremer, dissolution de l'appareil politico-militaire, voilà. Et les conséquences qu'on connaît.
Alors, quel est le rôle alors sur le terrain maintenant de l'Iran? Quelle force met-il en action? Pourquoi, comment et avec quel résultat? Et quelle, peut-être aussi à un moment donné, quelle relation avec Moscou?
Alors, l'Iran a sur le terrain militaire, hein, engagé un certain nombre de troupes. Alors, il faut bien le dire, c'est moins important qu'en Irak. On va dire que c'est davantage des troupes d'encadrement. Ça a été le cas dans la bataille d'Alep, où là, on a directement des gardiens de la révolution. On a Qassem Soleimani, le chef de la force Al-Quds, qui s'est amusé d'ailleurs, juste après la chute d'Alep, à faire des apparitions au pied de la citadelle pour montrer qu'il était là. Donc il a ce jeu que j'analyse un peu dans le livre, je l'appelle l'imam caché, entre guillemets, c'est-à-dire d'apparaître, de disparaître, de faire courir le bruit qu'il est blessé, etc. Donc tout ça, c'est une stratégie destinée un peu à épouvanter aussi la propagande wahhabite en face, qui en a fait, il faut bien le dire, une véritable bête noire. Mais l'Iran recrute aussi énormément pour le théâtre syrien, on va dire de la chair à canon. Vous avez des Pakistanais chiites, vous avez des Afghans également chiites qui sont envoyés, les Hazara, dans la brigade des Fatimiyoun, des Fatimides. Vous voyez, donc l'espace militaro-politique syrien est saturé d'histoires eschatologiques chiites. Là, on a une allusion aux Fatimides. Vous avez également des brigades qui font allusion à des batailles à Karbala, etc. Enfin, ça, c'est, je crois que ça, c'est en général dans le livre.
Karbala, ville sainte du schisme.
Voilà, ville sainte du schisme. Je crois que les acteurs extérieurs et surtout en Occident, on n'arrive pas à penser l'aspect eschatologique et religieux. Qui n'est peut-être pas essentiel, mais qui fait sens pour beaucoup d'acteurs. Donc il y a eu ça, il y a eu une mobilisation aussi énormément économique de la part de l'Iran, des lignes de crédit qui ont été ouvertes dès le début du conflit. Alors il faut bien le dire, on a parlé en 2012 de l'équivalent de 4 milliards de dollars quand même, quasiment tous les ans, mais alors c'est pas des dollars, c'est pas forcément de l'argent, ça a été beaucoup en nature, du pétrole et des livraisons de blé également, avec toute la difficulté de faire passer des bateaux iraniens par le canal de Suez pour arriver sur la côte syrienne ensuite.
Et est-ce que l'expression qui était peut-être galvaudée, je ne sais pas, d'Arc chiite, vous paraît pertinente cette expression, c'est-à-dire l'Iran, bien sûr, non arabe, on vient d'en parler, l'Irak, la Syrie avec le régime minoritaire chiite, et puis évidemment le Hezbollah libanais. On pourrait même faire un petit décrocher, aller jusqu'au Houthi dans le Yémen d'aujourd'hui, autre guerre civile.
Moi, j'ai un peu tendance à penser que cette expression d'arc chiite, c'est un peu un épouvantail. Je crois que les Iraniens sont très contents qu'on parle d'un arc chiite, parce que ça leur donne une impression d'omniprésence, d'ubiquité, à l'image de Qassem Soleimani, qui aime bien apparaître sur le terrain irakien, sur le terrain syrien, etc. Mais je crois quand même que là, il y a des différences de nature entre le soutien iranien, par exemple aux Houthis, qui sont des chiites, disons, tout à fait particuliers. C'est pas des duodécimains. Moi, je crois que l'arc, c'est pas tant chiite que iranien. En réalité, c'est de la diplomatie iranienne. C'est que les Iraniens arrivent effectivement à prolonger en quelque sorte leur profondeur continentale, leur profondeur stratégique, la prolonger jusqu'à la Méditerranée. C'est davantage, comme j'analyse dans le livre, les principes, si vous voulez, plutôt de la révolution islamique que le chiisme à proprement parler. Alors effectivement, vu du cockpit d'un F-16, ça marche, ça fonctionne, l'arc chiite, mais il y a quand même des discontinuités. Les alaouites de Syrie, moi je persiste à penser quand même que c'est par abus de langage qu'on les assimile au chiisme, si vous voulez. Et donc je pense que c'est davantage
une
stratégie nationale.
Ils peuvent être considérés comme des mécréants, justement.
Oui, voilà, enfin bon, si vous voulez, l'alaouitisme... Quand vous allez dans la montagne alaouite, Zainab, c'est-à-dire là vous avez vraiment en Syrie quelques sanctuaires chiites, Zainab, la fille d'Ali, mais enfin il y a 400 000 véritables chiites en Syrie seulement.
Et donc les rapports avec Moscou ?
Alors les rapports de l'Iran avec Moscou... D'abord, il y a des contentieux historiques qui, eux, ne passeront pas tout de suite. L'Azerbaïdjan, et puis on a quand même deux peuples qui fonctionnent très différemment, qui ont des puissances gazières. Ça ne met pas forcément d'accord. Sur le plan politique intérieur, sur la future constitution, la future Syrie, on va dire, là aussi, il y a une sorte d'opposition. Les Russes sont partisans davantage d'une Syrie fédérale. Les Iraniens, eux, vont promouvoir, tentent de promouvoir une forme de parlementarisme. Bon, voilà. Après, ça ne veut pas dire que ces oppositions sont insurmontables, mais actuellement, la direction syrienne... Qui aime bien faire cela, tente de jouer la carte russe contre les Iraniens, même si par ailleurs l'Iran, il faut bien le dire, vient de signer des accords économiques léonins avec la Syrie dans le domaine des phosphates, dans le domaine de terres agricoles, etc., etc.
Très bien, merci de cet éclairage. Je rappelle votre ouvrage, donc le titre Syrie, une guerre pour rien aux éditions du Cerf. Merci Frédéric Pichon et pour vous télécharger franceculture.fr.
Merci à vous Thierry Garcin et merci à Frédéric Pichon qui était avec nous en plateau. Et demain Thierry, il sera question d'Allemagne, économie, les conséquences du protectionnisme de Donald Trump sur les exportations allemandes aux États-Unis.
Voilà, parce que 10% des exportations allemandes se dirigent chaque jour vers les États-Unis. Notre invité sera Henrik Utterweide qui est chercheur à l'Institut franco-allemand de Ludwigsburg.